RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Équateur. On l'appelle le semeur de forêt. Âgé de 60 ans, Omar Tello a recréé sur 7 hectares un bout de forêt amazonienne dans la ville de Puyo. À l'origine, son terrain n'était bon que pour le bétail. Après 36 ans d'efforts, souvent solitaires, Omar Tello en a fait une forêt grouillante de vie, mais toujours menacée par l'expansion urbaine. Le jardin botanique, les orchidées de son nom officiel, est aujourd'hui une attraction touristique de la province de Pastaza. Jamais avare de projets un petit peu fous, Omar Tello veut aujourd'hui en tripler la surface. L'histoire d'un rêve devenu réalité dans ce grand reportage d'Éric Sanson.
À 3 heures de Quito, la petite ville de Puyo est encore entourée de verdure. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est plus vraiment la forêt vierge. Entre la déforestation, la pollution des eaux, l'urbanisation et l'élevage, la civilisation a laissé son empreinte. Pourtant, dans le quartier de Los Angeles, un irréductible écologiste fait encore et toujours de la résistance. Son nom, Omar Tello.
J'ai fait des études de comptabilité. J'ai travaillé 15 ans comme comptable dans une banque de Puyo. Mais je n'ai jamais oublié les joies de ma jeunesse. Quand j'avais 4 ans, mes parents se sont installés en Amazonie. La maison était modeste, mais depuis le porche, je voyais des singes, des toucans, des papillons, des écureuils. C'était le paradis.
À l'époque, les fleuves étaient encore propres, mais les choses ont changé avec le temps.
Plus je grandissais, plus je voyais que cette nature merveilleuse était une gêne pour les colons. Les fleuves gênaient parce qu'ils étaient dangereux, les animaux gênaient parce qu'ils mangeaient les cultures, et les colons ont commencé à les éliminer.
Il avait beau être jeune, Omar n'a rien oublié. Les Équatoriens capturant les animaux au filet, les étrangers repartant avec des oiseaux en caisse, puis la chasse aux papillons, aux grenouilles, aux escargots. Ce sont ensuite les orchidées qui ont attiré la convoitise, tout ce qu'Omar et son frère aîné Ephraim avaient appris à aimer. Devant le spectacle d'une forêt de plus en plus vide, de plus en plus silencieuse, Omar a dit basta.
À voir tout ce qui se perdait, j'ai eu un coup de nostalgie et je me suis demandé ce qu'il fallait faire pour revoir le paradis.
Omar Tello aurait pu évidemment déménager, s'éloigner de la ville et de son vacarme, vivre au plus profond de la forêt, mais il a refusé ce qui pour lui était la solution de la facilité.
Le défi était d'agir ici, là où était le problème, récupérer ici ce qu'on avait perdu. Je me suis dit que je ne voulais pas mourir à mon bureau, à la banque, que je voulais mourir dans la forêt. J'ai acheté un bout de terrain, puis un autre, dans la limite de mes capacités financières, et les folies ont commencé.
Des folies pas toujours comprises par sa famille, à commencer par sa femme, Lupe Rivadeneira.
Je suis la femme d'Omar et pourtant j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il faisait. Au début, on a eu des problèmes dans notre couple parce qu'il passait tout son temps dehors à s'occuper de ses plantes et il oubliait la famille.
Il en sourit aujourd'hui, mais Omar reconnaît que sa passion pour son jardin, comme il l'appelle, a bien failli lui coûter son couple.
Ça a été dur, il a fallu du temps. Au début, elle m'engueulait, elle me disait « Va-t'en avec tes herbes !» Et elle avait raison. Je ne passais pas beaucoup de temps à la maison. Je me levais à 5 heures du matin pour transporter de la sciure, pour préparer les sols, et j'allais au bureau. Le soir, pareil, je passais tout mon temps dans la forêt. Quand elle voulait me virer de la maison, je lui disais « Mais attends, tu vas voir, attends !»
Reconnaissant avoir délaissé sa famille, mais pour la bonne cause, Omar Tello a la satisfaction aujourd'hui de les avoir convaincus. Pourtant, rien ne laissait présager que les terrains de pâturage qu'il a achetés allaient se transformer avec le temps en forêt amazonienne. C'était en 1980.
À l'époque, l'élevage était à la mode. Si tu vendais 100 hectares de pâturage, les gens achetaient et cher. Si tu vendais un terrain avec 50 hectares de forêt, les gens n'étaient pas intéressés car la forêt ne valait rien. C'était comme ça à l'époque, il y a seulement 36 ans.
Dès le début, l'ambition d'Omar Tello a été de récupérer les terrains les plus appauvris. En Amazonie, la couche de terre fertile est peu profonde. Un terrain défriché est en général irrécupérable. Entre la pluie, l'érosion et les insectes, changer l'herbe à vache pour une forêt est une véritable gageure. Il lui a fallu commencer par refaire les sols, transporter des tonnes de sciure qu'il récupérait dans les scieries voisines, faire du compost, se tromper et recommencer. Une époque difficile où il a réussi à mobiliser ses enfants, dont sa fille aînée, Angela.
Quand on était petits, le jardin était notre espace de jeu et de divertissement. C'est vrai que mon père était souvent absent et qu'il a manqué une partie de notre vie familiale. Mais on a beaucoup appris avec lui. Quand on l'aidait à faire du terreau, il nous motivait en organisant des jeux, des courses pour voir qui transportait la sciure le plus vite possible. Et on a participé. Il a toujours été très visionnaire. Il me disait sans arrêt, « Tu verras, ce sera le meilleur endroit de la province et de l'Équateur. Tu vas voir comment la forêt va pousser et comment les gens vont aimer cet endroit. » C'est comme ça qu'on a compris son objectif.
Quel était l'objectif, la meta, non ?
Ces débuts compliqués, tout visiteur du jardin botanique Les Orchidées peut les revivre dans un petit musée. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, Omar Tello a documenté le lent retour de la vie grâce à un petit appareil photo.
C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la biologie. Comme tout se passe la nuit, j'ai passé 33 ans pratiquement de nuit blanche.
Donc, ici, j'ai passé 33 ans de malas noches.
D'abord, il fallait créer un espace apte pour la vie. Maintenant qu'on a une forêt remplie de plantes et d'animaux, il y a un espace pour que la famille puisse se réunir, profiter ensemble de cet espace et vivre mieux. Quand je suis arrivé ici, c'était un espace inerte. Il n'y avait pas d'oxygène, pas d'arbres, pas d'insectes, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est un endroit où l'on peut vivre dignement.
Et un endroit où sa fille a tous ses souvenirs d'enfance.
Je me souviens quand on était petits avec mes frères et sœurs, on montait sur les arbres pour récolter les fruits, les guabas. À l'époque, il y avait beaucoup de lumière, pas autant d'ombre qu'aujourd'hui. Les arbres étaient encore petits et on pouvait les escalader.
Aujourd'hui, les arbres ont grandi. Le jardin est devenu une forêt, une vraie. Au fil des ans, au fil des décennies, la vision d'Omar Tello est devenue réalité. Une chance pour lui, car son jardin lui a sauvé la vie.
Il y a 20 ans, je suis tombé malade. J'allais vraiment mal et les médecins pratiquement me donnaient pour mort. Un jour, je me promenais dans la forêt qui était encore jeune et j'ai dit « Mon Dieu, laissez-moi profiter de l'ombre de mes arbres, ne me prends pas tout de suite. » J'ai commencé à étudier la médecine naturelle et j'ai trouvé des remèdes dans mon jardin et je me suis sauvé. Aujourd'hui, je profite de l'ombre de mes arbres et je suis toujours là.
Sa forêt est-elle secondaire ou primaire ? Pour Omar Tello, c'est le cadet de ses soucis. Ce qui l'intéresse, c'est de l'avoir poussé et d'être aujourd'hui capable de se passer de lui, grâce notamment aux chauves-souris qui disséminent les graines des milliers d'arbres et d'arbustes qu'il y a plantés au fil des ans. Même s'il n'est pas pressé, la nature a de toute façon des rythmes qui nous échappent, selon Blasty Milzak, responsable de l'herbarium de l'université San Francisco de Quito.
En Amazonie et ailleurs, une forêt primaire est un espace qui n'a jamais été touché, que ce soit artificiellement, via la main de l'homme, ou bien naturellement, après des éboulements et autres catastrophes. La forêt est primaire quand les plantes arrivent à un équilibre naturel entre elles. Selon Bishop, dans un livre publié il y a 25 ans, pour passer d'une forêt secondaire, d'une zone récemment défrichée à une forêt primaire, il faut au minimum 5000 ans.
Sans compter qu'une forêt primaire n'est pas une accumulation d'espèces, mais un savant dosage dont nous ignorons presque tout.
De nombreuses plantes ont leur caractère, si on peut dire. Souvent, la plante A ne supporte pas l'espèce B. La plus forte survivra et l'autre devra disparaître de la zone. C'est la dynamique d'une forêt. Cela ne s'obtient pas en peu de temps et personne n'a écrit là-dessus.
Quel que soit le nom qu'on lui donne, le jardin d'Omar Tello a fait bien des adeptes à Puyo, à commencer par Jaime Rodriguez.
C'est le meilleur musée de la province pour la variété d'orchidées et d'animaux qu'on y trouve. Omar est mon ami depuis longtemps. Il travaillait dans la banque locale de Puyo où j'étais client. Il m'a toujours aidé, mais ne m'a jamais parlé de son projet. Je m'en suis seulement rendu compte en lisant des articles de presse.
Ce jour-là, des dizaines de cyclistes font une pause à l'ombre des arbres de la forêt. Il s'agit d'une balade organisée une fois par mois par la préfecture de la province de Pastassa pour soutenir les entrepreneurs locaux. Pour Dora Tité, la forêt d'Omar Teyo est une nécessité vitale pour la ville.
La conservation et la restitution de la végétation si près de la ville de Puyo sont intéressants. On a beau être en Amazonie, à Puyo, l'environnement a beaucoup souffert. La déforestation ici est considérable et on constate que peu à peu, le ciment et la pollution gagnent du terrain dans notre ville.
Un point de vue que partage Jorge Perencevic, le propriétaire depuis 20 ans d'un hôtel de Puyo.
Je connais M. Tellio depuis des années. Je lui ai acheté des plantes et des compositions florales. Je le connais parce que son jardin est l'un des endroits les plus intéressants de Puyo. Il s'est toujours soucié de la sauvegarde de la nature. Il a des orchidées de quelques millimètres qu'il faut voir avec une loupe. C'est un travail gigantesque qu'il a mené avec sa famille, une beauté qu'il faut absolument visiter.
Ce travail est tout, sauf égoïste. Omar Teyo ne veut pas l'exclusivité sur ses méthodes de travail. Au contraire, il serait heureux d'être copié. Cela fait des années d'ailleurs qu'il partage ses expériences dans les communautés indigènes locales, comme celle du Quichua Efraín Alban Grefa.
Don Teyo nous a donné des arbres à planter, l'engrais et les techniques pour améliorer les sols. On a maintenant récupéré des arbres qui avaient disparu. Les communautés indigènes n'ont pas su gérer leurs ressources naturelles. Elles les ont trop exploitées et on n'a plus de bois à exploiter tout près.
S'attaquer au « progrès » entre guillemets et parfois vain, Omar Teyo le reconnaît. Pourtant, il n'envisage pas de renoncer car cette forêt, c'est aussi une philosophie de vie, une philosophie à contre-courant de la vitesse de l'ère moderne.
Les gens sont pressés de vivre, de faire fortune, et cela provoque toujours plus de déprédation. On coupe les arbres de plus en plus jeunes, par exemple, et après, on s'étonne que les meubles durent moins longtemps. Les gens, aujourd'hui, ne savent plus attendre. Quand j'ai commencé, ils me traitaient de fou. Ils me disaient, pourquoi est-ce que tu plantes cet arbre? Il lui faudra 50 ans pour pousser. Mais en attendant, regardez le résultat.
Avec des arbres de près de 40 mètres de haut, le résultat se voit de loin. Même si elle n'est pas une convaincue de la première heure, la femme d'Omar Teyo a désormais fait sien le rêve de son mari, Lupe Rivadeneira.
On n'a pas de grande richesse parce que tout ce qu'il gagnait pratiquement a été investi dans la forêt. Mais nous sommes tranquilles et confiants de voir que son travail est enfin compris et apprécié par les gens. On a deux enfants spéciaux. On a vu l'effet bénéfique de la forêt sur nos enfants. Depuis qu'elle est bébé, j'ai stimulé ma fille avec des graines, des feuilles. Omar lui a expliqué son travail et elle sait beaucoup de choses. C'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir la forêt à d'autres enfants spéciaux.
Tout comme Carlita, la fille d'Omar, dont le syndrome de Down n'empêche pas de guider les touristes, de nombreux enfants profitent d'un petit centre construit à l'entrée de la forêt. Jenny Villacres, professeure de l'école spécialisée de Puyo.
De notre institution, nous venons une fois par mois ici. Les enfants ont l'opportunité d'être en contact direct avec la nature. Ils apprennent les couleurs, les senteurs et les textures. Ils profitent vraiment de la nature.
Des enfants heureux dans la forêt comme Carlita et qui le crient très fort. Ce n'est pas évident pour les touristes qui se perdent dans ces chemins tortueux, mais pourtant le paradis d'Omar est aujourd'hui menacé.
L'écosystème est incroyable. On a récupéré énormément d'espèces de faune et de flore, mais le terrain est maintenant trop petit. Comme l'environnement a été dévasté tout autour du jardin, les animaux se sont concentrés chez moi et la nourriture n'est pas suffisante pour la quantité d'animaux qu'on a ici. Pour que le projet se maintienne, pour ne pas perdre ce que nous avons obtenu, la seule solution est d'augmenter la superficie de la forêt. Avec seulement 7 hectares près d'une ville écologiquement dévastée, on n'y arrivera pas.
Omar Tello a besoin d'acheter de 20 à 30 hectares de pâturage qui bordent sa forêt et lui permettrait de maintenir sa diversité biologique. Il en coûtera plus de 500 000 $ qu'il n'a pas. Pourtant, Omar se fait fort de transformer ses pâturages en forêt en une quinzaine d'années avec l'aide de sa famille.
J'ai une fille qui connaît le projet, des petits-fils que je suis en train de former. Il y a des gens intéressés qui souhaitent copier ce que je fais. J'espère que ce modèle de conservation durera dans le temps, qu'il se transformera en inspiration et modèle pour beaucoup. L'idée, c'est que mon jardin soit copié et que d'autres espaces identiques se créent dans la région.
Un objectif qui est également celui de sa fille Angela.
On va continuer, c'est un travail de grande valeur, le résultat de beaucoup d'efforts et de sacrifices, et on ne peut pas le laisser se perdre. C'est notre meilleur trésor aujourd'hui.
Grand reportage à Pouillot, Eric Sanson, réalisation Eva Moschinski.
Et on vous retrouve, Eric Sanson, bonjour. Alors avant de parler des problèmes autour de cette forêt, vous qui voyagez souvent en Amazonie, est-ce que le jardin de Martello est proche de l'original ?
Alors ce bout de forêt a 36 ans et il est vraiment parti de rien. C'était de l'herbe à vache sur de la mauvaise terre. Omar Tello et son frère se sont déplacés dans toute la région. Dès qu'ils entendaient parler d'un terrain qui avait été défriché, ils récupéraient des pousses, des racines et les plantaient ensuite sur le terrain du jardin. Donc il a fallu plus de 20-25 ans pour que les arbres les plus grands de la forêt arrivent à une hauteur respectable, genre 20, 30, voire 40 mètres. Or, on le sait, c'est sur la canopée que se développent de nombreux écosystèmes. Et plus les arbres prennent de la hauteur, plus les animaux montent eux aussi. Pour ça, il va falloir laisser du temps au temps. Pour le reste, quand on se promène la nuit avec Omar Tello dans le jardin, on est surpris vraiment par la quantité de vie animale qu'on y trouve. C'est une expérience étonnante.
Et justement, est-ce qu'on trouve dans cette forêt du jaguar, de l'anaconda ?
Alors jaguar, non. Il leur faut de plus grands espaces. Mais un oslo s'était installé. Il a malheureusement été tué, car c'est l'un des problèmes de la forêt d'Omar Tello. La ville, qui avant était à quelques kilomètres, est aujourd'hui aux portes du jardin botanique. Il y a donc des chasseurs, et cela finit par bloquer le passage des plus gros animaux. L'anaconda a failli venir, mais selon Tello, qui a vu un exemplaire, le serpent est arrivé tout près de la forêt, mais il n'est pas rentré. Comme il y a des zones humides dans la partie basse, Omar Tello y a mis des poissons, une famille de loutres est arrivée et les a tous mangés. Donc voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des espèces qui sont venues et qui ensuite sont reparties. Les 7 hectares protègent une quantité plus que respectable d'espèces, mais le terrain n'est pas suffisamment grand pour que d'autres s'installent ou restent sur place.
Et vous en parlez dans votre reportage, il y a une possibilité d'acheter ces terrains qui manquent, mais il n'y a pas l'argent.
Absolument. Quand on se promène dans la forêt, à un moment, on arrive au bord. Donc j'ai demandé au Martello de m'amener à la frontière, entre guillemets, et c'est frappant. En 50 cm, on passe d'une forêt luxuriante, remplie d'arbres, d'arbustes, de lianes, à un terrain entouré de fils de fer barbelés et rempli d'herbes à vaches. Cette présence de l'homme tout près de la forêt est un problème. Il y a une route qui passe tout près, il y a des bus, un peu de circulation, de la musique, et donc des éléments perturbateurs qui ne poussent pas certains animaux à s'installer. Il y a de 20 à 30 hectares disponibles qui permettraient de tripler, voire quadrupler la surface de la forêt, mais Omar Tello n'a pas les moyens de les acheter. Il a déjà dépensé beaucoup de son argent pour créer la forêt, il vit modestement juste à l'entrée, alors du tourisme bien sûr, mais également de la vente de fleurs et notamment d'orchidées. Ayant perfectionné ses techniques pour améliorer les sols, Tello affirme qu'il peut transformer ses terrains en 15-20 ans, ce qui donnera au jardin une capacité bien meilleure pour supporter une faune plus importante. Tello ne demande rien pour lui, il indique que ses terrains pourraient être mis dans une fondation, une structure indépendante, rien à son nom. Encore faudrait-il trouver de bons samaritains intéressés en ces temps de COP21 à Paris et COP22 au Maroc. La vérité, c'est que quand on voit l'enthousiasme et la passion de cet homme pour son jardin, pour sa forêt, on se dit que ce serait une bonne façon d'utiliser de l'argent.
Le semeur de forêt, votre grand reportage, Eric Sanson, est à retrouver, à réécouter, bien sûr, comme d'habitude, sur RFI.fr.